Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Politiquement Incorrect menée par Hubert Guérin.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Politiquement Incorrect sur Radio Val-de-Rhin. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission au cœur de l'actualité politique. Yves Nicolin, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Vous êtes le député-maire de Roanne, président de l'agglomération rouennaise. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par un sujet d'actualité. Vous avez décidé d'armer dans le courant de l'été les 16 policiers municipaux de la ville de Roanne, une décision qui résonne différemment après les événements dont la France fut victime. Roanne, selon vous, est-elle ou peut-elle être la cible d'attaques terroristes ?
N'importe quelle ville en France, n'importe quel quartier d'une ville en France peut effectivement être la cible d'une attaque terroriste. Aujourd'hui, nous avons un plan Vigipirate qui est au niveau attentat, donc dans beaucoup d'endroits, au niveau écarlate dans beaucoup d'autres également, et par conséquent, il faut être préparé à cela. Mais l'armement de la police municipale est totalement indépendant de ces événements. Durant notre campagne électorale l'année dernière, donc puisque nous sommes pratiquement à un an donc après l'élection, nous avions pris des engagements en ce qui concerne la sécurité des Rouennais. Et parmi ces engagements, il y avait bien évidemment d'une part la mise à niveau de la police municipale. Ça a été fait. Nous avons remonté les effectifs et cela va continuer. Et par ailleurs, nous avons décidé de mettre en place un grand plan de vidéoprotection. Ce plan de vidéo a été lancé, budgété, puisque nous avons voté le budget de 2015 il y a quelques semaines. Et aussi, donc, nous avions programmé l'armement de la police municipale. Aujourd'hui, l'ensemble des armes sont achetées et d'ores et déjà, donc, 4 policiers ont été formés, puisqu'il faut avoir une habilitation préfectorale. Et donc, nous avons d'ores et déjà des policiers qui patrouillent en armes.
Donc, c'est pour lutter contre la délinquance ?
C'est pour lutter contre la délinquance. C'est pour rassurer aussi, donc, les policiers eux-mêmes. Il faut voir qu'aujourd'hui, les malfaiteurs, qu'ils soient terroristes ou non, ne regardent pas si c'est un uniforme de police nationale, de police municipale. Et par conséquent, nous devons mettre nos policiers municipaux sur le même pied d'égalité en matière, donc, de défense, et c'est ce que nous avons fait à Roanne. Et cela, effectivement, prend une dimension particulière après les attentats. Et je peux vous dire que nos policiers municipaux sont très satisfaits d'avoir justement désormais une arme qui les protège, des gilets pare-balles également qui les protègent et qui leur permet donc de patrouiller dans des conditions de sécurité.
Les projets urbanistiques que vous souhaitez mener à terme sont nombreux. Le coût total des réalisations est estimé à une centaine de millions d'euros. Vous avez déclaré que vous alliez réendetter la commune, n'est-ce pas un peu risqué alors que le contexte économique général est plutôt morose ?
Alors, il faut savoir que lorsque j'avais été élu maire pour la première fois en 2001, la municipalité précédente, gérée par Jean Roux, nous avait laissé une dette de 41 millions d'euros. Lorsque j'ai quitté les affaires en 2008, nous avions donc désendetté la ville de 14 millions. Mon successeur, donc Laure Desroches, de 2008 à 2014, a elle-même désendetté la ville de 14 millions. Il nous reste aujourd'hui un petit peu moins de 14 millions de dettes par rapport à 41 millions il y a donc une douzaine d'années. Donc nous avons une marge de manœuvre extrêmement intéressante. Il faut savoir que dans les villes de notre importance, l'endettement moyen par habitant est de l'ordre de 1100 euros par habitant de dette. Nous sommes à moins de 400 et nous allons tomber à 300. Donc nous avons les capacités de nous réendetter raisonnablement sans mettre nullement en péril donc les équilibres financiers de la ville. Donc nous pensons effectivement faire un endettement complémentaire au maximum entre 10 et 14 millions, ce qui nous mettra de toute façon en dessous de l'endettement que j'avais moi-même laissé en quittant la ville en 2008.
Le centre commercial Sully que vous souhaitez créer ne va-t-il pas pénaliser une partie des commerces du centre-ville ?
Ou bien au contraire ? Bien au contraire, parce que nous sommes face à une menace aujourd'hui. Une menace qui vient de Riorges, qui vient du Rital Park. Si nous ne menons pas une opération de reconquête commerciale de la ville, et de la ville centre telle qu'elle est décrite dans tous les documents, que ce soit ceux qui sont préparés par l'État, voire même par l'ensemble des communautés de l'arrondissement de Roanne, qu'on appelle le SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale, il est dit dans chacun de ces documents que nous devons réinvestir en matière commerciale sur le centre-ville. Si nous ne faisons pas, nous aurons effectivement dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, un retail park à Riorges, donc à quelques encablures du centre-ville, avec 20 000 mètres carrés à terme de surface commerciale. Et là, ça serait effectivement un désastre pour le commerce du centre-ville. Ce que nous visons, c'est redimensionner donc l'offre commerciale donc à Roanne, faire en sorte que nous puissions attirer de nouvelles enseignes qui n'ont pas la capacité aujourd'hui de venir en ville, parce que nous avons une ville où les commerces sont en pied d'immeuble dans nos rues commerçantes, avec des surfaces surfaces qui sont très réduites, de l'ordre de 50 à 80 mètres carrés. Aujourd'hui, nous avons des enseignes, qu'elles soient nationales ou locales, qui cherchent des surfaces qui font 100, 150, 200, voire 300 mètres carrés. Nous n'avons rien à leur offrir. Du coup, elles partent à la périphérie pour aller justement s'installer alors qu'elles ne peuvent le faire en centre-ville. Nous voulons faire revenir ces marques-là en centre-ville et c'est la raison pour laquelle nous avons porté le projet de Sully. J'ajoute que le projet de Sully est soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie, il est soutenu par la Fédération des commerçants du Rouennais, il est soutenu par les vitrines de Rouen. Donc il n'y a pas de désaccord avec le tissu commercial. Peut-être que nous aurons quelques commerçants qui vont dire « Ah, je risque peut-être de me retrouver en concurrence », mais nous l'objectif c'est pas de mettre de nouveaux commerces qui viendront se mettre en concurrence avec les anciens, c'est de faire revenir une population qui est à 40 km à la ronde autour de Rouen pour revenir faire ses cours en centre-ville plutôt que de les laisser partir faire leurs courses à la périphérie, à Mably, à Riorges ou à Péreux.
Lancé en mai 2011 pour la somme de 3 millions d'euros, le plan vélo de Rouennais agglomération fut stoppé. Vous avez déclaré que les contraintes techniques et administratives ne permettent pas de poursuivre le projet. Ce sont vraiment des contraintes techniques et administratives, aucunement une question budgétaire.
Pas seulement. D'abord, il faut voir que ce programme donc était un effet d'annonce. 3 millions, il n'y a jamais eu, lorsqu'il a été lancé par la précédente équipe, 3 millions de travaux qui ont été engagés. Il y a eu un plan. On a dit effectivement, par exemple, sur le pont du Coteau, il faut faire de la voirie vélo, sur un certain nombre de voiries, etc. Cela, nous ne le changeons pas. Le plan, nous ne le changeons pas. Simplement, nous disons aux communes qu'aujourd'hui, l'agglomération n'a pas les moyens, à partir du moment où on décide d'un certain nombre de priorités d'investissement, de se lancer dans ce genre d'investissement pour soutenir financièrement les communes. Si la commune de Riorges, si la commune de Commelle-Vernay veut financer des actions dans le cadre du plan vélo, elle pourra continuer à le faire. Et je dirais même mieux, puisque dernièrement, le maire de Commelle-Vernay s'est rapproché de Mme Riamont, conseillère régionale, et a été mis en contact avec la région, et qu'il vient d'obtenir, pour faire justement davantage de voies cyclables, plus d'argent qu'il n'en aurait eu avec le plan vélo de l'agglomération.
Développer un mode de transport plus doux dans l'agglomération rouennaise n'est pas une priorité.
Alors, ce n'est pas une priorité sur le plan financier. Nous sommes aujourd'hui, et nous l'avons dit clairement au niveau de l'agglomération, notre priorité, c'est l'emploi, c'est l'accueil d'entreprises, c'est la construction de bâtiments économiques. Ce n'est pas d'aller faire des pistes spécifiques pour les cyclistes. Nous sommes tout à fait respectueux de cyclistes. Je fais moi-même du vélo, j'ai un VTT. Je circule peu parce que j'ai peu le temps, mais le week-end en tout cas, notamment au printemps et l'été, oui. Mais par contre, aller faire des pistes spécifiques, des pistes cyclables qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, je dis franchement, en ce moment, en cette période de disette financière, je préfère mettre l'argent dont nous disposons sur la construction de bâtiments à vocation économique pour attirer des entreprises, créer de l'emploi, que pour effectivement satisfaire quelques cyclistes qui, pour l'instant, peuvent continuer bien évidemment à circuler et le feront dans des conditions qui ne sont pas si dénaturées que cela.
Sur RVR, vous suivez l'émission Politiquement Incorrect de Hubert Guérin. Son invité, Yves Nicolin, député maire de Rouen, président de Rouennais Agglomération. Hubert Guérin.
Justement, concernant l'agglomération, 14 maires ne souhaitaient pas rejoindre le conseil communautaire. Ça avait fait l'objet d'une question au gouvernement à l'Assemblée nationale auprès de Marie-Lise Lebranchu, ministre en charge de la fonction publique. Aujourd'hui, quelle relation entretenez-vous avec ces maires frondeurs?
Oh, d'abord, je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui de maires frondeurs. Il y a des maires qui sont attentifs à ce que nous faisons à l'agglomération, qui sont encore peut-être un peu sur la réserve pour certains, mais très objectivement, je pense que nous avons passé ce cap-là. Vous l'avez dit, il y a eu donc, je crois, 13 communes qui ont démissionné, qui refusaient donc l'intégration à Rouen Agglomération. Entre-temps, les élections générales municipales ont eu lieu, les maires ont été élus et ils ont tous décidé de siéger à la communauté d'agglomération du Grand Rouen. Ce qui n'était pas le cas sous mon prédécesseur. Donc on peut dire que la présidence d'Yves Nicolin a permis déjà de faire en sorte que toutes les communes viennent autour de la table. Après, bien évidemment, les maires, les communes ne sont pas là pour dire amen à toutes mes propositions. Et nous avons des débats. Bon. Mais vous savez, j'en retire une satisfaction parce que il y a 83 membres du conseil communautaire représentant les 40 communes de l'agglomération. J'ai été élu avec 46 voix. Le projet, par exemple, de centre aqualudique, qui pourtant fait des vagues, comme on dit, a été voté à 60 voix. Donc ça veut dire que nous progressons. Il y a 14 personnes de plus que celles qui m'ont fait confiance pour présider l'agglomération qui ont décidé de soutenir ce projet. Donc, très objectivement, nous sommes en discussion avec l'ensemble des communes, ça se passe bien et je passe beaucoup de temps à faire en sorte que les projets de toutes les communes puissent recevoir une étude bienveillante. Et je rappelle, et c'était un engagement que j'avais pris durant les élections, que sur les 14, les 15 vice-présidents de l'agglomération, 8, c'est-à-dire une majorité, sont issus des communes rurales par rapport au secteur de l'ancienne agglomération.
Justement, comme vous venez de le rappeler, les investissements vont s'accélérer. Mattel, les Mini-Almulsan, le centre aqualudique, le centre commercial Sully.
Les bords de Loire.
Les bords de Loire, tout à fait. Mais à côté, les subventions aux associations vont diminuer de 8%.
Non. Alors, l'objectif était de diminuer effectivement de 8%. Nous avons voté donc jeudi dernier au conseil municipal l'enveloppe et les attributions donc de subventions. C'est une diminution de 5% que nous avons fait parce que nous avons tenu compte effectivement de chaque cas. Maintenant, il faut voir que...
Vous supprimez le bureau des sports, par exemple.
On ne supprime pas le bureau des sports. On va stopper progressivement le financement de l'Office municipal des sports parce qu'il ne répondait plus aux attentes que nous avions au niveau de la municipalité et que les associations qui auraient pu bénéficier de ces services, eh bien, pour une grande partie d'entre elles, considéraient qu'ils n'apportaient pas l'utilité attendue. Donc, ceci étant, il faut savoir que la précédente équipe municipale avait, elle aussi, programmé donc la fin du financement de l'Office municipal des sports, puisque nous avons retrouvé des notes qui avaient été transmises, des consignes qui avaient été transmises au service des sports et qui, effectivement, si Mme Desroches avait été élue, aurait conduit quasiment au même résultat.
Le sens de circulation a changé à Rouen, notamment dans le centre-ville. L'ex-maire Laure Desroches l'avait également fait en 2008. Yves Nicolin, en quoi ce changement était-il une priorité ?
C'est une priorité parce que c'était une volonté des Rouennais. Nous avions depuis toujours des sens de circulation à Rouen qui donnaient satisfaction à tout le monde. Personne ne se plaignait qu'on avait des embouteillages, des difficultés, etc. Un beau jour, l'équipe de Mme Desroches, certainement poussée par les écologistes, a voulu faire fuir la voiture du centre-ville. Comme si nous étions dans une grande ville comme à Nice, à Saint-Étienne, à Bordeaux, je ne sais où. Sauf que nous ne sommes pas une grande ville et que les Rouennais ont pour habitude de pouvoir circuler assez facilement. Et donc le nouveau sens de circulation qui avait été mis en place par l'équipe de Mme Desroches a contraint les véhicules et notamment a fait fuir beaucoup. Le résultat était effectivement attendu et réussi. Beaucoup d'automobilistes ont décidé de ne plus passer par le centre-ville. Ce qui a eu des conséquences très fâcheuses pour l'activité commerciale. Donc, durant plusieurs années et pendant la campagne, nous avons rencontré énormément de Rouennais qui nous ont dit qu'il faut revenir au sens de circulation que nous avions avant et qui donnait satisfaction. Et c'est ce que nous avons fait. Là encore, une fois de plus, c'est un engagement que nous avons tenu. Vous savez, nous ne prenons personne en traître. Nous avons porté durant la campagne électorale un programme. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous appliquons tout notre programme, rien que notre programme.
Mais on a un peu l'impression que c'est des manœuvres politiciennes.
Pas du tout. Ce serait des manœuvres politiciennes si nous avions pris les électeurs en traître. Nous avons annoncé, parce qu'il y avait une demande des habitants, qu'il fallait revenir à un sens de circulation pour apporter de la fluidité, nous le faisons. Ça s'appelle tenir ses engagements. On critique trop les politiques qui ne tiennent pas leurs promesses, on ne va pas aujourd'hui me reprocher de tenir les miennes.
Actuellement, le gouvernement favorise leur approche pour des communes. Ainsi, des communes se sont rapprochées telles que Thizy-les-Bourgs dans le Rhône. Envisagez-vous pour votre part un rapprochement entre Rouen, Riorges et Mably ?
Moi, je le souhaite, pas seulement d'ailleurs Rouen, Riorges et Mably, je souhaite effectivement que nous puissions engager un processus de commune nouvelle, de fusion, donc de commune actuelle. Vous savez, je suis maire de Rouen.
Quelles communes seraient concernées ?
Avant de vous dire lesquelles, je vais vous donner quand même quelques éléments. Je suis maire de Rouen, j'habite à Riorges. J'ai une de mes enfants qui est au collège à Riorges. J'en ai deux autres qui sont à Rouen. Ma femme fait ses courses aussi bien à Mably, à Riorges ou à Rouen. Nous sommes tous comme ça. C'est-à-dire que nous habitons une commune, mais nous vivons aussi en dehors de cette commune. Il y a beaucoup de liens. On traverse une rue, vous changez de commune. Vous êtes au Canot, vous êtes à Riorges, vous traversez le rond-point, vous êtes de l'autre côté, vous êtes à Rouen. Bon. Donc tout ça, je trouve aujourd'hui que ça n'a plus beaucoup de sens. L'État est en train de diminuer fortement nos dotations et contraint par conséquent les communes à des choix extrêmement difficiles. Si nous voulons faire en sorte de ne pas augmenter les impôts, nous devons mutualiser, regrouper nos services et le regroupement des communes fait partie des outils. Donc après, quelles communes pourraient être ? Je pense que les 6 communes de l'ancienne agglomération, que sont Rouen, Riorges, Mably, Villeray, Le Coteau, Commelle-Vernay, pourraient effectivement ne faire qu'une seule ville. Par ailleurs, ça aurait un peu de gueule. Une ville de 73 000 habitants par rapport à une ville de 38 000, lorsqu'on va les discuter avec le préfet de région, avec le préfet du département, avec le conseil régional demain, qui lui-même s'agrandit. Je pense que nous aurions davantage de poids. Après, ça n'enlève rien aujourd'hui aux élus, puisque si ces communes acceptaient de rentrer dans une commune nouvelle, comme Michel Mercier l'a fait dans le Rhône, eh bien, nous aurions des mairies annexes avec des maires d'arrondissement. Tout cela pourrait très bien se gérer. Donc d'ailleurs, je me suis rapproché de Michel Mercier, qui doit venir prochainement devant un bureau des élus de l'agglomération pour justement discuter de ça, regarder quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et de façon engager un processus de discussion.
Vous occupez de nombreux postes de décision dans l'agglomération, maire de Roanne, président de l'agglomération. Est-ce que vous ne voulez pas laisser la place aux autres? Est-ce que surtout ce n'est pas incompatible avec le cumul des mandats?
Alors aujourd'hui, la loi permet, je ne fais rien en dehors de la loi. Donc la loi permet effectivement à un parlementaire que je suis d'être maire et d'être président de l'agglomération. Il y a une loi qui a été votée, que nous contestons, et dans le cadre de notre programme de reconquête par rapport à l'élection présidentielle de 2017 et des élections législatives qui suivront, nous souhaitons revenir sur cette loi. Parce que je pense que c'est une très mauvaise loi. Demain, si nous avons des députés qui ne sont que députés, nous aurons des députés hors sol. Aujourd'hui, quand nous débattons à l'Assemblée nationale, nous sommes en train, par exemple, et c'est ce que j'ai dit en commission la semaine dernière, de débattre de ce qu'on appelle la loi NOTRe, c'est-à-dire nouvelle organisation de la République, où on va parler des nouvelles compétences du département, où on va parler des regroupements de communes. Comment est-ce qu'un élu qui n'est pas élu local, comment est-ce qu'un député qui n'est pas élu local peut connaître cela et avoir un avis pertinent? Si demain nous avons un texte à l'Assemblée nationale pour réformer ce qu'on appelle le droit du sol, c'est-à-dire pour les permis de construire, si vous avez des élus qui n'ont jamais exercé comme maire, qui lui délivrent le permis de construire, comment voulez-vous qu'il ait un avis pertinent? Donc je crois qu'il est important que les élus nationaux, que sont les députés et sénateurs, mais également les ministres, une fois qu'ils sont au gouvernement, puissent avoir un pied ancré dans le territoire pour être en phase avec la réalité quotidienne. Le jour où nous aurons que des députés ou des sénateurs qui ne seront que députés ou sénateurs, c'est pas compliqué. Ils seront 5 ou 6 jours par semaine à Paris, on les verra une fois par an sur le terrain, et ça sera terminé. Il y aura plus de contact de proximité et nous aurons de mauvais élus nationaux. Donc, vous m'avez dit que je cumule beaucoup de choses. C'est vrai, mais rien de plus que ce que fait le maire, par exemple, socialiste de Lyon, qui est également sénateur, président de la Cour Lee. Et ce que je trouve d'ailleurs très étonnant, c'est que la gauche me reproche de cumuler, mais ils ne disent rien sur M. Collomb, qui fait partie de leurs amis politiques. Bon, bref, tout le monde aura compris que c'est une petite manœuvre politique. Après, vous savez, j'ai beau avoir que 52 ans, je prépare ma succession. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, au cas où je devrais être amené à laisser mon mandat parlementaire, je souhaite que la place puisse être organisée et je suis en train de travailler avec ma suppléante Clotilde Robin, qui d'ailleurs est candidate aux élections cantonales sur le canton de Charlieu, de façon à ce qu'elle prenne davantage de poids et qu'elle puisse se mettre en phase avec beaucoup de dossiers. Mais même chose à la mairie. Nous avons une équipe, notamment à la mairie, avec de jeunes élus, avec des responsables, et demain matin, pour faire clair, si je devais casser ma pipe, il y aurait forcément quelqu'un dans mon équipe qui prendrait la suite et qui la prendrait bien.
Justement, on va parler des élections. En mars prochain vont avoir lieu les départementales. L'Union pour la Loire, regroupant des candidats UMP, UDI et indépendants de droite que vous soutenez, a présenté 2 binômes de candidats pour Roanne, à savoir Nicolas Roveret et Sophie Rodkopf, pour le canton de Roanne numéro 1 et Philippe Perron et Émilie Ambler pour le canton de Roanne numéro 2. Quels sont les projets que vous souhaiteriez voir portés par ces candidats?
Alors d'abord, il faut savoir que, le gouvernement actuel, c'était le maire de Nantes, monsieur Hérault, qui était Premier ministre, a, dans la précipitation, fait abolir la loi que nous avions votée sous Sarkozy et qui visait à n'avoir plus qu'un seul élu qui représente aussi bien le département que la région. Là, on aurait fait de vraies économies, notamment par rapport au nombre d'élus, et on réduisait fortement le nombre d'élus. Bon, c'était une loi qui avait été votée sous Sarkozy, il fallait donc la mettre par terre. Ça a été fait, ils nous ont voté dans la précipitation une loi qui est une première sous la Ve République. Sur un même territoire, on va élire 2 élus qui auront les mêmes responsabilités et qui vont se marcher, entre guillemets, j'espère, le moins souvent possible, mais ça sera quand même une réalité dans certains cas, sur les pieds les uns des autres. Bon. Dans l'arrondissement de Roanne, nous allons avoir 5 cantons et par conséquent, les 22 et 29 mars, ou 23 et 30, je ne sais plus précisément quel est le jour du dimanche, mais nous allons donc élire 10 conseillers départementaux. Sur la partie ville de la partie ville de Roanne, la ville a été coupée en deux, ce qui est aussi une bêtise. Et nous avons une partie, nous avons Roanne Nord, donc qui est au nord de la voie ferrée, avec le secteur de l'hôtel de ville, avec le secteur du cours de la République, et puis toute l'avenue de Paris, etc. Une partie sud qui est donc au sud de la voie ferrée, avec Mulsanne, le faubourg Clermont. La partie nord va être alliée avec Mably, et là nous allons élire deux personnes. Donc nous portons deux candidats que sont donc Nicolas Revray et Sophie Rodkoff. Et la partie sud, donc elle, c'est la partie sud de la ville de Roanne, la ville de Riorges, la ville de Villeray et la ville de Saint-Léger sur Roanne. Et là, nous présentons effectivement donc deux candidats que sont Philippe Perron et Émilie Ambler. Ce que j'attends de ces élus, qui sont pour l'un maire de Villeray, pour l'autre mon chef de cabinet, pour les deux autres enfin deux de mes adjoints, ce que j'attends, c'est qu'ils puissent nous aider à défendre l'intérêt de la ville de Roanne et aussi bien évidemment de Mably, de Riorges, de Villeray et de Saint-Léger au sein du conseil départemental de demain. Parce que le conseil départemental, qu'on appelle le département, gère quand même un budget considérable, notamment dans le domaine social. Et nous sommes très attachés à mener une politique sociale, mais une politique sociale juste et non gaspillante. Nous sommes d'ailleurs en travail avec le Conseil général pour faire un grand audit de l'ensemble des actions sociales qui sont menées avec des structures telles que la ville, l'agglomération, le département, la caisse d'allocation familiale, les différentes associations. Et beaucoup font des actions, mais quelquefois qui se marchent les unes là encore sur les autres. Donc nous voulons y voir clair, le département travaille avec nous, et donc j'ai besoin d'élus qui nous aident dans ce domaine-là. Mais par ailleurs, nous avons des collèges aussi. C'est la responsabilité du département. Donc j'attends de mes élus qu'ils soient là pour défendre les intérêts des collèges. On a notamment un collège qui est en pleine reconstruction, qui est le collège Jules Ferry. Je veux que les travaux avancent vite. Et on a besoin d'élus qui soient là pour cela. Donc voilà ce que j'attends de mes élus, c'est qu'ils puissent faire le lien entre les communes dont ils sont issus et pour lesquelles ils ont déjà des responsabilités et le conseil départemental qui se passe à Saint-Étienne.
Vous êtes sur RVR, vous suivez l'émission Politiquement Incorrecte, l'invité Yves Nicolin au micro d'Hubert Guérin.
Le Front National a présenté ses deux candidats pour Roanne, Sarah Brosset et Christophe Millon. Pour l'instant, les autres candidats des autres partis ne sont pas déclarés. Nous savons juste que Laure Desroches ne sera pas candidate. Préférence consacrée au développement de sa nouvelle entreprise. Craignez-vous des triangulaires avec le Front National ?
Non, je ne crains pas de triangulaires avec le Front National, mais je pense que nous aurons des duels avec le Front National. Pourquoi ? Parce que nous avons, pour avoir une triangulaire, il va falloir faire 12,5% des inscrits. Ce qui veut dire qu'il faudrait faire au minimum 25% des voix si nous avons donc une participation de 50%. Et nous aurons une participation faible parce que c'est une élection qui ne draine pas énormément de monde comme l'élection présidentielle, législative ou les municipales. En plus, avec cette nouvelle réforme, mode de scrutin, des cantons qui ont été redécoupés, où on ne sait pas encore aujourd'hui quelles seront toutes les compétences du département puisque la loi NOTRe n'est toujours pas votée, ce qui est quand même ahurissant. On vote dans un mois pour des élections.
Oui, les candidats ne savent pas dans quel domaine.
Les candidats ne savent pas quelles seront les compétences précises des départements. C'est unique dans la République. Bon, bref. Donc, le Premier ministre, encore la semaine dernière, a annoncé, mais un peu de patience, vous allez le savoir. Bon, sauf que généralement, on le sait un an, deux ans à l'avance. Là, un mois avant, on ne le sait pas. Bon. Donc, je pense malheureusement que cette élection ne va pas drainer beaucoup de monde. Et donc, à partir du moment où on ne draine pas beaucoup de monde, il va falloir faire un pourcentage très fort pour pouvoir se qualifier en triangulaire. Par contre, comme automatiquement les deux candidats arrivés en tête seront qualifiés pour le deuxième tour, on aura, je pense, des duels avec le Front National. Mais un mot sur le Front National. Je comprends bien que beaucoup de nos concitoyens soient tentés par ce vote, qui est un vote de protestation, un vote de mécontentement. Je mets en garde quand même. D'abord, nous avons des candidats qui ne sont pas du tout locaux. Madame Brosset, aujourd'hui, habite à Savigneux, du côté de Montbrison.
Oui, mais conseillère municipale à Roanne.
Mais peut-être, mais elle a déménagé depuis. Elle n'habite plus sur le secteur. Qu'on n'habite pas, à la limite, la commune même, c'est mon cas. Mais qu'on habite à 40 kilomètres. Je veux dire, complètement en dehors de la ville, de l'agglomération. Elle siège à l'agglomération, elle n'en fait même pas partie aujourd'hui, elle n'habite pas. C'est le cas pour la quasi-totalité des candidats. Quand je vois qu'ils présentent des candidats sur la côte roannaise qui ont 79 ans, c'est pas sérieux. Donc je veux dire, on a l'impression que le Front National est à la chasse à n'importe quel candidat parce qu'ils savent que qui qu'ils présentent, de toute façon, ils auront des voix. Mais après, c'est pas le tout d'avoir des voix. Une fois qu'on est élu, il faut être responsable. Et il faut donc mettre en application des décisions. Par ailleurs, moi je veux dire, j'ai un véritable problème avec le Front National. C'est qu'aujourd'hui, la principale mesure économique que propose le Front National, c'est de sortir de l'euro. Moi, je voudrais faire observer à tous les artisans, commerçants, les retraités qui aujourd'hui seraient, par exemple, tentés. Ils ont pour la plupart d'entre eux des emprunts. Si quelqu'un a un emprunt aujourd'hui de 100 000 euros, si demain nous sortons de l'euro, il faudra qu'il rembourse 50% de plus. Donc ça veut dire que ça va lui coûter la moitié en plus à payer de sa dette. Si c'est ça ce que les gens veulent en votant Front National, nous allons à la ruine du pays. Alors je veux bien qu'on ait des tas de griefs à faire à l'UMP, à l'UDI, au Parti Socialiste ou à d'autres. Mais à un moment donné, entre choisir des candidats qui sont incompétents, qui n'habitent pas le secteur et qui proposent des mesures qui sont mais d'un danger fou pour notre pays, je pense à un moment donné qu'il faut dire stop.
Quelle est votre position sur les législatives partielles dans le Doubs qui se déroulent
actuellement? Moi, c'est pas compliqué.
Vous auriez appelé
moi,
à voter qui?
Ah ben moi, je veux dire, je serai dans le Doubs, j'irai voter dimanche et je voterai ni pour l'un ni pour l'autre. Et je laisserai les électeurs qui ont mis en place cette situation en plaçant une gauche incompétente qui nous mène à la ruine depuis déjà 2 ans et demi, un Front National qui nous propose rien ni plus ni moins que la ruine de la France en quittant l'Europe. Démerdez-vous. Électeurs du Doubs, vous avez fait ce choix, démerdez-vous.
Nicolas Sarkozy était en conférence rémunérée à Doha alors qu'on attendait la position de l'UMP. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très sérieux pour nouveau président de l'UMP.
Pardonnez-moi, mais c'est vous qui êtes pas très sérieux de dire cela. Et tous les journalistes qui disent cela, c'est pas très sérieux. Pourquoi est-ce que monsieur Strauss-Kahn a le droit d'aller faire des conférences? Pourquoi est-ce
que Nicolas Sarkozy est président de ce qu'il appelle le principal parti d'opposition?
Et alors, ça lui a pas empêché de prendre une décision? J'étais avec lui mardi matin en réunion de groupe où il nous a donné sa position. Nous lui avons apporté nos commentaires par rapport à cela. L'après-midi,
quelle est sa position?
Sa position, c'était effectivement de dire je ne souhaite pas que nous ayons un nouvel élu socialiste. Et je ne souhaite pas que nous ayons par ailleurs un nouvel élu du Front National, parce que, comme il le dit lui-même, c'est la ruine de la France. Maintenant, il dit, si je devais vraiment choisir entre les deux, je préférerais peut-être avoir un élu socialiste de plus à l'Assemblée, parce que ça ne changerait rien. Bon, nous lui avons fait observer que nous étions plutôt sur une position de ni l'un ni l'autre aux électeurs de se débrouiller. Mais l'UMP n'a pas été empêché de fonctionner. Le bureau politique a mis en place une décision. Après, on dit, oui, mais c'est une décision qui a été discutée. Il y a eu 2 heures et demie de discussion. Nicolas Sarkozy, quand il a été candidat pour reprendre la tête de l'UMP, a dit, il y aura des débats. Il y aura des votes. Il y a eu débat, il y a eu vote. Là encore, il tient ses engagements. Et on lui reproche. Après, sur ses conférences rémunérées, mais foutons-lui la paix. Il a le droit de faire des conférences rémunérées comme le font d'autres élus, que ce soit Gerhard Schröder, que ce soit Bill Clinton, que ce soit Tony Blair ou d'autres. Je veux dire, quel est le problème? Il fait des conférences,
oui,
il est rémunéré.
Schröder, Bill
écoutez-moi,
Clinton.
Il fait des conférences, il est rémunéré, il paye ses impôts, contrairement à d'autres qu'il ne les paye pas. Bon.
Oui, mais Gerhard Schröder et Bill Clinton n'ont plus d'activité politique officielle.
Et alors?
Oui, mais Nicolas Sarkozy est président d'un parti
et
d'opposition.
Et alors? Monsieur Valls a bien toujours une société commerciale inscrite au registre du commerce. Et alors? Quand on fait de la politique, on ne doit pas être déconnecté du monde. Donc si certains veulent conserver une activité professionnelle, pourquoi les en empêcher? Quand vous avez un élu qui est médecin, pourquoi on devrait l'empêcher d'être médecin? Celui qui est chef d'entreprise, il doit vendre son entreprise? Nicolas Sarkozy était avocat, il fait aujourd'hui des conférences, et alors? Je pense que tous ceux qui sont contre sont simplement des jaloux.
Pour terminer, le conseil municipal fut retransmis en direct sur le site internet de la ville.
Ah, c'est bien ça.
Tout comme le conseil communautaire. Comme les autres députés, vous avez rempli la déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La recherche systématique de transparence, est-ce pour vous une avancée démocratique?
Alors, je fais une énorme différence entre retransmettre un conseil municipal ou un conseil communautaire sur Internet, et puis les problèmes de déclaration de patrimoine et d'inquisition qui est en train de nous mettre le gouvernement. Tout cela, malheureusement, n'est pas comparable. Les conseils municipaux sont publics. Bon. N'importe qui peut assister au conseil municipal. Le prochain, d'ailleurs, aura lieu le 5 mars. Donc c'est le jour de mon anniversaire. Certains veulent venir pour m'apporter une boîte de chocolat, j'en serais ravi. Bon. Mais donc c'est public. Après, on est bien conscient qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas prendre toute leur soirée ou venir à l'hôtel de ville. Donc nous avons décidé de faire en sorte que ce soit transmis sur Internet. Et ça marche bien. Et ça marchera de mieux en mieux. Je voudrais simplement faire observer aux élus que ça les oblige aussi à être plus attentifs à leurs propos. puisque désormais tout le monde peut les entendre. Quant au système d'inquisition dont nous faisons preuve, moi je suis ahuri. Alors j'ai, comme tout le monde bien évidemment, fait ma déclaration de patrimoine, fait ma déclaration d'intérêt. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui ont reçu quitus de la commission de la transparence de la vie politique sur ma déclaration de patrimoine, pendant que d'autres sont encore examinés par le fisc ou par cette commission-là. Donc je dors.
Notamment des membres du gouvernement qui ont dû démissionner.
Je dors sur mes deux oreilles. Mais franchement, je veux dire, un élu, il a eu une vie avant, il aura une vie après. Quel est l'intérêt que les gens sachent ce dont il est propriétaire? Est-ce qu'on va demander aux journalistes, à Claire Chazal, à d'autres, qui sont payés, alors pas Claire Chazal parce qu'elle est sur TF1, mais ceux qui sont sur Antenne 2, qui sont payés par l'argent public, est-ce qu'on va leur demander de mettre leur déclaration de patrimoine, de nous donner leur rémunération? Est-ce qu'on va demander aux footballeurs de nous dire pourquoi, et combien est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'ils ont comme patrimoine? Je veux dire, à un moment donné, ça suffit, quoi. On paye. Alors, il y en a qui font des fautes. Je pense à Cahuzac, je pense à Thomas Thévenoud, qui effectivement ne payait pas ses impôts. Il faut effectivement les sanctionner et lourdement. Bon, Cahuzac est devant la justice et Thomas Thévenoud, ça va pas tarder. Bon, mais à partir de là, vous avez quand même heureusement une immense majorité d'élus qui sont extrêmement honnêtes. Mais vous savez, moi, je veux dire une chose. Je suis marié et ma femme donc a de la famille, etc. Bon, et elle me dit mais. Il va falloir que je déclare aussi ce que j'avais, ce que mes parents m'ont donné, etc. Je lui dis, ben oui. Je dis, mais c'est scandaleux. Donc elle me dit, mais à ce moment-là, on a intérêt à divorcer. Et comme ça, au moins, on ne saura pas ce que j'ai. Bon, je veux dire, c'est un voyeurisme malsain. Et tout cela a été instauré par François Hollande, qui n'est pas le premier transparent dans cette affaire.
Merci beaucoup, Yves Nicolin, d'être venu sur le plateau de Politiquement Incorrect. Merci à vous, auditeurs de RVR, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.
Merci.